écoutez Radio J, il est midi.
Et à la une de l'actualité, le 226e jour de guerre contre le Hamas et l'annonce ce matin de la mort de deux nouveaux soldats israéliens. En cause, l'explosion dans un puits de tunnel piégé à Rafah, correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk.
Le porte-parole de Tsahal a annoncé que deux soldats des commandos d'élite de la brigade Givati ont été tués durant les combats dans le sud de la bande de Gaza. Il s'agit du sergent-chef Nachman Meir Chaim Waknin, 20 ans de Elat, et du sergent-chef Noam Bitan, 20 ans de Yad Rambam. D'ailleurs, on a appris à la sortie du Shabbat hier la mort d'un autre soldat israélien, Ben Avishai, 20 ans de Naharia, qui est tombé lors de combats intenses dans le nord de la bande de Gaza. Il appartenait à la brigade des parachutistes.
Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. 4 corps d'otages récupérés dans la bande de Gaza vendredi dans une opération spéciale de l'armée du Shin Bet. L'identité du 4e a été révélée hier par Tsahal. Il s'agit de Ron Binyamin, 53 ans, enlevé et assassiné par le Hamas au matin du 7 octobre près de Melfassim. Les terroristes ont emmené son corps dans la bande de Gaza, corps qui a donc été retrouvé aux côtés de ceux de Shani Luke, de Yitzhak Gelerenter et d'Amit Bouskila, qui eux deux étaient considérés jusqu'à présent comme encore vivants. C'est dans ce contexte que de nouveaux rassemblements d'opposants au gouvernement Netanyahou et de familles de captifs ont eu lieu hier soir à Jérusalem et à Tel Aviv. Les Israéliens se sont à nouveau mobilisés par milliers. Les participants ont appelé la communauté internationale à soutenir et à œuvrer pour un accord sur la libération des 125 captifs encore retenus dans la bande de Gaza. Sans plan de Benjamin Netanyahou pour l'après-guerre à Gaza avant le 8 juin, Benny Gantz quittera la coalition. C'est ce qu'il a annoncé hier soir dans une allocution qui était très attendue. Benny Gantz souhaite la mise en place d'une administration palestinienne alternative au Hamas avec un soutien international et un accord sur les otages. Il s'est adressé directement à Benjamin Netanyahou hier soir et lui a demandé de ne pas choisir ce qu'il appelle la voie des fanatiques. Plusieurs ministre fustige la politique de Benny Gantz, il la considère comme de gauche et lui suggère donc d'avancer son ultimatum et de partir immédiatement. Benny Gantz est rentré comme ministre du cabinet de guerre après le 7 octobre. À la frontière sud, les alertes à la roquette ont encore retenti ce matin près d'Ashkelon. Et hier, des dizaines de terroristes ont été tués lors d'affrontements violents à Jabalia. L'armée israélienne a diffusé les images de drones qui montrent des parachutistes en train d'éliminer deux terroristes sur le toit d'un immeuble. La fusillade avait commencé à l'intérieur du bâtiment. Aucun soldat n'a été blessé lors de cette opération. Par ailleurs, Tsahal a aussi appelé les Palestiniens à évacuer une liste de nouvelles zones et les quartiers nord de Gaza. Ils doivent se déplacer vers des abris établis à l'ouest. À la frontière nord, face au Hezbollah, des avions de combat ont quant à eux frappé des bâtiments du groupe terroriste hier au Liban. Et un drone chargé d'explosifs a visé une zone proche de la communauté frontalière israélienne de Yiftar. Plusieurs roquettes ont également été tirées depuis le Liban vers le nord d'Israël. Le Hezbollah a revendiqué 10 attaques de ce type pour la seule journée d'hier. Attaques qui n'ont pas fait de blessés. En France, le ministre de l'Intérieur sera demain à Rouen pour décorer le policier qui a tiré sur l'auteur de l'attaque antisémite contre la synagogue de la ville, synagogue de Rouen, qui a donc été incendiée avant-hier. Le terroriste a été tué alors qu'il fonçait sur les policiers arrivés sur place avec un couteau. Un Algérien sous le coup d'une OQTF qui venait de mettre le feu au lieu de culte. Il était dangereux mais inconnu des services de renseignement. Cet incendie de la synagogue de Rouen s'ajoute à la profanation plus tôt cette semaine du mur des Justes au mémorial de la Shoah à Paris. Julie Harfi du collectif Nous Vivrons.
La communauté juive n'a pas le droit de dire qu'elle est victime de quelque chose parce qu'on la taxe de victimisation, comme je disais. Je lis sur les réseaux sociaux que la communauté juive pleurniche en permanence. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Je crois qu'effectivement, les associations antiracistes doivent se réemparer du sujet de l'antisémitisme. C'est la réalité, c'est que c'est aussi pour ça que Nous Vivrons s'est créé, en raison d'une espèce d'abandon du sujet de la lutte contre l'antisémitisme par les associations de lutte contre le racisme.
Julie Arfi de l'association Nous Vivrons. L'intégralité de cet entretien est à podcaster sur radioj.fr et à retrouver sur notre compte YouTube. Une liste Free Palestine officiellement candidate européenne. C'est le leader d'un petit parti islamique, l'Union des démocrates musulmans de France, qui l'a créé. Le logo prône la disparition d'Israël et son programme appelle à cesser de considérer le Hamas comme terroriste. En 2019, ce parti avait péniblement atteint les 0,13% des suffrages. L'IFOP le crédite actuellement de 0,5% des voix.
Sapmag, l'actu des écrans.
Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Radio J, en DAB et sur les réseaux numériques. C'est Serge Toupin qui vous propose, comme chaque semaine donc, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Au sommaire de ce SatMag Hebdo, on commencera par faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin. Et puis parmi les sujets traités cette semaine, la lettre d'information Satellifax a été vendue. C'est toute une histoire de l'information des médias qui va changer. Ça bouge dans l'audiovisuel, oui, ça bouge beaucoup. Et ça a pas mal bougé depuis le 10 mai 1981. Pour les députés et les filles, l'ARCOM n'a pas assez de pouvoir. Oui, mais d'un autre côté, ils trouvent qu'elle en a trop de pouvoir. C'est pas très logique, on expliquera ça. On jettera un gros coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils sur ce qu'il faut regarder à la télévision la semaine prochaine. Et puis on étudiera peut-être d'autres sujets si on en a le temps.
SatMag, l'actu des écrans.
Allez, on commence avec Zao de Sagazan qui a fait sensation, si on peut dire, avec sa reprise de Modern Love de David Bowie. C'était lors de l'ouverture du Festival de Cannes 2024. Elle a vraiment beaucoup de talent.
I'm lying in the rain, but I never wave bye.
SACMAG, l'actu des écrans.
Allez, on retrouve notre ami Christian Dauphin qui va nous rappeler un peu l'histoire de la télévision.
Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
la formidable aventure de la télé.
Le samedi 20 novembre 1948, le secrétaire d'État à l'information François Mitterrand signe un décret qui va révolutionner l'univers de la télévision. La médiocrimage du poste passe alors de 441 lignes à 819 lignes pour sa définition. Dès lors, la France adopte la technologie télévisuelle noir et blanc la plus évoluée du monde. Une haute compétition industrielle est lancée, son objectif, proposer la plus belle image possible aux téléspectateurs.
Dans la cabine centrale de la Tour Eiffel, on s'affaire, on se prépare, tout est paré pour le début de l'émission.
Mais la France ne parviendra jamais à imposer le 819 lignes comme norme internationale. TF1 sera donc la seule chaîne française à continuer à l'exploiter jusqu'au 19 juillet 1983.
Il y aura des écrans géants dans toutes les maisons.
Alors que les Japonais expérimentent déjà leur système de télévision haute définition dans les années 1970, nos laboratoires élaborent dès l'année 1979 un écran plat qui exploite la technologie plasma.
Cet écran extra plat, encore à l'état de prototype, n'utilise pas de tube cathodique comme sur les écrans traditionnels.
Mais c'est à partir de 1988 que les laboratoires Thomson, Philips et Sony travaillent chacun de leur côté à améliorer la définition de l'image. Ainsi, la norme européenne D2Mac et sa version de luxe HDMac verront le jour quelques années plus tard pour les JO d'hiver en France, à Albertville, avec un lancement officiel le 8 février 1992 par le président Mitterrand, une nouvelle fois associé à la télévision haute définition.
Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, célébrant les 16e Jeux Olympiques d'hiver.
Le format 16/9 marque aussi l'arrivée des images larges. Thomson, Nokia et Philips deviennent les pionniers de ce type de téléviseur.
Le téléviseur au format si grand. Dès aujourd'hui, son écran 16/9 ouvre à tous ceux qui créent un espace enfin à leur mesure.
En France, même si les images HD ont été diffusées par satellite plus de 10 ans auparavant, c'est l'arrivée de la télévision numérique terrestre en 2005 qui permettra de démocratiser cette amélioration de qualité d'image. En 1992, un téléviseur HD coûte l'équivalent de plus de 4 500 €. Aujourd'hui, pour la même taille d'écran, on en trouve à partir de 400 €. La toute première série diffusée en haute définition est américaine. Heroes arrive le samedi 30 juin 2007 sur TF1. Cette série de science-fiction met en évidence les étranges pouvoirs surnaturels dont bénéficient quelques personnes dans le monde. La série compte 78 épisodes, une version bande dessinée et un projet d'adaptation au cinéma.
Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et...
SACMAG, l'actu des écrans.
It should be understandable, undeniable. You can't argue at all. Unbelievable, what is happening in the world? Bring them back now, we don't care. Please understand, our heart is there, and we need them to come back. Unbelievable, what is happening here? The world won't see it, but we can feel it. We hear it and see it everywhere. We don't care if it seems wrong, how we choose to right this wrong. But if you'd be in our place, would you do it any different, brother? It's just inconceivable, such a heavy toll. How can we even breathe? Not to have control, loved ones being pulled into darkness as they bleed. Bring them back, the time is now. Lift this dark and heavy cloud. We need them to come back home. Take the- to come back home now. Bring them home.
Une page se tourne pour Satellifax. Joël Virstel, qui dirige cette lettre d'information sur les médias, vient d'annoncer qu'il la cède à CF News, un média indépendant 100% digital d'actualité et de base de données dédiée aux acteurs corporate finance. C'est l'occasion pour nous de rediffuser la chronique que je vous avais proposée alors que cette lettre fêtait ses 25 ans. Depuis, d'ailleurs, cette lettre a changé de nom. Satellifax est devenu Satellifact. Logique. Qui sait ce qu'est un fax aujourd'hui? Pour ceux qui se disent, Satellifax, Satmag, est-ce que ça a un rapport? Il y en a un.
Satmag, l'actu des médias.
Connaissez-vous Satellifax? C'est une lettre professionnelle consacrée aux médias. C'est une institution dans ce monde. Pour beaucoup, Satellifax fait partie de leur petit déjeuner. Pain, beurre, café et Satellifax. On lit Satellifax en arrivant au travail. Tous les grands médias sont abonnés à Satellifax. Quand je dis on lit, c'est évidemment si on est abonné à cette lettre. Et comme tout média hyper ciblé, destiné à un public hyper ciblé, c'est pas donné. Mais c'est pas volé non plus. Car être abonné à Satellifax, c'est comme être abonné à l'AFP. L'AFP des médias. Indispensable si on veut tout savoir. Une lettre qui finalement résume bien non seulement l'histoire de l'audiovisuel de ces dernières années, mais aussi l'histoire de la communication. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Satellifax. Au départ, deux passionnés, Joël Virstel et, désolé de le dire, et moi, Serge Surpin. Joël, passionné de communication, il a plongé dès le départ dans l'univers du Minitel. Pour vous donner une idée, il écrivait d'abord sur un cahier ce qu'il allait ensuite transcrire sur les pages Minitel. Et oui, il faisait partie des testeurs du Minitel. Et puis il y a moi, passionné de radio. J'en ai fait dans les années 80 avec les premières radios libres, mais dès l'enfance, j'enregistrais des cassettes de programmes à la manière des animateurs de l'époque, à l'américaine, avec plein de jingles. Joël était aussi l'un des premiers possesseurs d'antennes paraboliques. Et ça tombe bien, j'en vendais des antennes paraboliques. Mais c'est via un service Minitel dédié à la réception satellite que l'on s'est connu. Il était responsable du 3615 Sat TV et moi j'y intervenais. Beaucoup, presque autant que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui est pas peu dire. À un moment, Joël a quitté la supervision de ce 3615 Sat TV. Et comme il venait aussi de quitter l'entreprise de bricolage où il travaillait, je lui ai proposé de travailler avec moi, dans mon magasin de paraboles. J'avais besoin d'un responsable commercial. Je voulais aussi qu'il m'aide à gérer mon service Minitel 3615 sur Pain. J'y vendais des produits satellites via ce serveur. Mais ça marchait pas trop. C'était pas très pratique à l'époque. Par contre, j'avais remarqué que la partie information sur l'univers satellite et les médias fonctionnait très bien. Joël et moi avons travaillé à développer ce côté information. Et c'est l'avantage du Minitel, si vous faisiez bien votre travail, ça rapportait pas mal. 2,19 francs la minute. Ah oui, environ 40 centimes d'euros. Et ça allait vite. Et le Minitel avait peut-être des défauts, mais il était basé sur un financement simple et efficace. Contrairement à Internet, bien sûr plus pratique, mais parti lui sur la base de la gratuité, avec tous les avantages et les inconvénients. Donc le 3615, ça marche bien. Joël a proposé de lancer une version imprimée. Les abonnés recevaient alors par fax la lettre quotidienne. D'où le nom, Satellite Fax. Il a aussi lancé une version audio. Les gens téléphonaient pour entendre les nouvelles. Et ça a été plus mitigé. Sauf deux fois, quand un serveur porno s'est trompé et a fait une pub avec notre numéro. Le jackpot. Bon, ça n'a pas duré longtemps et on a accepté cet argent. Rapidement, Satellite Fax a pris de l'ampleur. Car la lettre était bien informée et sérieuse. Tout cela, j'avoue, c'est Joël qui l'a apporté. Satellifax a pris une telle importance que j'ai viré pourtant Joël de mon magasin. Oui, licencié, car je voulais qu'il s'occupe à 100% de Satellifax. Et ça a marché, il a fait ce Satellifax que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je n'en fais plus partie? Alors je l'avoue, à un moment j'ai fait une grosse bêtise. L'activité de mon magasin étant en difficulté, j'avais besoin de financement. Et Joël a racheté mes parts. Et tant mieux pour Satellifax, il a pu développer cette entreprise beaucoup mieux certainement sans moi. Des regrets, j'en ai. J'ai essayé de sauver mon entreprise, mais ça n'a pas marché. Mais comme le dit ma femme, oui, mais grâce à ça, tu travailles aujourd'hui en radio, c'est ta passion. Autre chose, une leçon. Si j'ai vendu Satellifax, c'est aussi sur les conseils de certaines personnes de ma famille. Erreur. N'écoutez jamais ses conseils. Suivez votre instinct. Cela dit, je suis fier d'avoir aidé à la création de Satellifax et je félicite Joël Verstel d'en avoir fait ce qu'il est devenu. Une réussite.
Satmag, l'actu des écrans. Radio J.
Nosea al Kvishmahir. Maga ha'etzev sheba'avir. Uva chalon sheli. הנוף חולף מולי, או שאני חולף מולה. כל שיר חושף איזה סוד, מותח עוד גשר לחצות, ומכוון כליו, אני דרוך אליו, רוצה לדעת את כולו. ואז עוברים בי שלב שלב, מי שהייתי, מי שעכשיו, כל הפנים והשמות כולם, כל השירים שהם לקחו איתם. רחוק ואת קולות רחוקים של צחוק, ריחות של יום שבת, אבי מרים מבט ושתי עיניים עייפות, ובחצר של ביתי ירוק טהור כמו בילדותי. השער הגדול וחריקת החול ושתי רגלי היחפות, כמו עוברים בי שלב שלב, מי שהייתי, מי שעכשיו, כל הפנים והשמות.
Satmag, l'actu des médias.
Le 10 mai 1981 est une grande date dans l'audiovisuel français. Oui, le 10 mai 81, 43 ans déjà. C'est loin. Oui, bon, d'accord, je parle comme un boomer, comme dirait l'autre, ce que je suis. Mais donc, ce 10 mai 1981, si j'évoque cette date dans cette chronique consacrée aux médias, c'est que l'arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République a complètement bouleversé l'audiovisuel français. Autrement dit, la radio et la télévision. Il faut rappeler qu'avant, radio et télévision étaient contrôlés par l'État. Que ce soit pour les médias publics, mais aussi les radios officiellement privées, comme Europe 1, RTL, RMC ou Sud Radio. Je reprends les noms actuels. Bon, des radios officiellement privées, mais dans les faits détenues par des sociétés contrôlées par l'État français. Je dis ça même si pour RTL, c'était un peu plus compliqué. Mais donc, avant 1981, tous les médias audiovisuels français étaient contrôlés par l'État. Du côté télévision, c'était pareil, à la différence qu'il y avait deux télévisions privées reçues en France, qui ne l'étaient que sur une faible partie du territoire. Elles auraient bien pu être reçues un peu partout en France si, jusqu'à 1981, justement, le gouvernement n'avait pas bridé le développement du câble, l'ancêtre de la DSL ou de la fibre. La raison, contrôler l'accès à la radio et la télévision pour l'opposition. Donc, le 10 mai 81, 20h, Annonce de l'élection du nouveau président de la République. Et au même moment, sur la fréquence FM 96 MHz, un signal est diffusé. Un son tiré de la musique du film Rencontre du troisième type. C'était l'ébauche d'une nouvelle radio, Radio Cité Future, lancée avec le soutien du journal Le Monde. C'était le signal que pour la radio et la télévision, une nouvelle ère s'ouvrait. Il est vrai qu'un peu partout dans le monde, les monopoles de diffusion de l'État sur la radio et la télévision étaient tombés. Nombreux sont ceux qui, en France, militaient pour une ouverture. Déjà les partis d'opposition qui voulaient avoir accès à la radio et la télévision. Cela avait été envisagé sous la précédente présidence, celle de Valéry Giscard d'Estaing. Mais ils n'avaient pas osé sauter le pas. Pour créer un semblant de concurrence entre les chaînes, en 1974, il les a rendues indépendantes les unes des autres. On sait qu'aujourd'hui, il est question de faire marche arrière et revenir vers une fusion de l'audiovisuel public, qui ne sera pas évidente à réaliser. Côté radio, FIP avait déjà été créé en 1971. Et pour faire plaisir aux jeunes, mais surtout pour couper l'herbe sous le pied des radios pirates, Radio France a lancé, le 2 juin 1981, Radio 7. Il a aussi été envisagé de créer des radios privées, mais payantes. Ainsi, un jeune héritier d'une entreprise de parfums, Jean-Paul Bautreau, a d'abord travaillé sur un tel projet. Puis il a changé de fusil d'épaule en créant Énergie, qui au départ, d'ailleurs, était une radio à destination des femmes. Le projet a vite évolué, on le sait. Mais il faut dire que si le 10 mai 81, l'élection de François Mitterrand suscitait de l'espoir pour les partisans de la radio, que l'on appelait à l'époque les radios libres, c'était que celui-ci s'était engagé dès 1979 dans le projet Radio Riposte, qui aurait été géré par le Parti Socialiste. Un projet stoppé net par une saisie et une condamnation du futur président. Si la première radio à émettre après l'élection du président Mitterrand fut donc Radio Cité Future, ce projet est vite tombé à l'eau. Et cela pour une raison simple. S'il est facile quand on est dans l'opposition de vouloir ouvrir l'accès aux ondes, une fois arrivé au pouvoir, c'est différent. François Mitterrand a en effet autorisé les radios dites libres, mais pas les radios commerciales. Autrement dit, interdiction de la publicité. Impossible alors de rentabiliser une radio, sauf si elle est associative. Ce qui était d'ailleurs favorisé, ça tombe bien. Les associations étaient généralement proches de la gauche au pouvoir à cette époque. Même si évidemment, dans les faits, c'était un peu plus compliqué. Ce n'est qu'en 1984 que les radios privées eurent accès à la publicité. 84, d'ailleurs, l'année où fut lancée la première télévision privée en France, Canal+. Mais elle était cryptée et quand même contrôlée par un proche du président. Il a fallu attendre 1986 pour que deux télévisions privées gratuites apparaissent. Une pour un ami du président Mitterrand, Silvio Berlusconi, qui à l'époque était proche du Parti Socialiste Italien, et puis TV6, une télévision musicale qui a été ensuite tuée par Jacques Chirac dès son arrivée au pouvoir en 1987. Mais quand même, 1981 aurait été une date pour l'indépendance des médias audiovisuels, puisque le président Mitterrand a en effet décidé de créer aussi un organisme de contrôle de l'audiovisuel. Il devait être indépendant. Il a mis du temps à l'être. Beaucoup de temps. Pareil du côté des rédactions des radios et télévisions. Elles sont devenues petit à petit indépendantes. Là aussi, ça a pris du temps. Aujourd'hui, dans les médias publics, les journalistes et leurs responsables ne reçoivent plus d'ordre du pouvoir. Là aussi, ça a été difficile à obtenir. On peut dire que ça a vraiment commencé avec la présidence Hollande. Depuis, il faut reconnaître que les médias sont indépendants. Si, il faut vraiment le croire, les médias publics sont indépendants. Les médias privés, par contre, c'est un autre problème. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Satmag, l'actu des médias.
Radio.
יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להחליף עבודות. יכול להיות שאני לא מלצר טוב, קשה לי למלצר בידיעה שנועדתי לכתוב. ואז מה שקורה אני מתחיל לחשוב, וזה אף פעם לא נגמר טוב. למה את הולכת? רק עכשיו הגעת, פתחת לי צ'קרה והלכת, עשית לי רמה והמשכת. את כמו ויאגרה אחרי שחת, אני נמשך אלייך כמו השחלמת. עשית אותי על אוטומט, חולה עלייך מאומת, פסיכופת. למה את? למה את? למה את הולכת? אני לא הרשיתי לך ללכת, אני לא הרשיתי לך ללכת. למה את בוכה ומחייכת? למה את הולכת? אני לא הרשיתי לך ללכת, אני לא הרשיתי. לא, אני לא ספגטי. יכול להיות שאת מסננת אותי, יכול להיות שאת מעצבנת אותי, יכול להיות שאת גם יושבת מדמיינת אותי, תקוע על סולם ולא מצליח לטפס, ואת צועקת מלמטה מדרבנת אותי. נו תעלה, אני עולה, אני זמר מעולה, קצת צרוד, אני חולה עלייך מאומת, פסיכופת, קיבינימט. למה את? למה את? למה את הולכת? אני לא הרשיתי לך.
נמצא באופן אישי, לחצת על מקשים וחיברת אותי לצד הנשי, דרכת על מקשים, יכול להיות שדווקא את מכל האנשים. למה את הולכת? רק עכשיו הגעת, פתחת לי צ'קרה והלכת, עשית לי רמה והמשכת. את כמו ויאגרה, חשכת, אני נמשך אלייך כמו השח למת, עשית אותי על אוטומט, חולה עלייך מאומת, פסיכובת. למה את?
Dans le paysage audiovisuel français, deux événements se télescopent. D'une part, le renouvellement des autorisations d'émettre d'une quinzaine de chaînes présentes sur la TNT. Les chaînes actuelles devront présenter une nouvelle demande qui sera ou pas retenue par l'ARCOM. Celui-ci doit faire comme s'il reprenait tout à zéro, même s'il est évident que l'autorité de l'audiovisuel réfléchira à deux fois avant de retirer une autorisation d'émettre pour une chaîne existante. Pour cela, il faut quand même une bonne raison qui tienne la route. Sachant que pour la plupart des chaînes, elles ont bien rempli leur contrat. Par contre, pour d'autres, politiquement parlant, c'est moins évident. Quoique, en disant cela, l'ARCOM peut aussi retirer l'autorisation d'émettre à une ou plusieurs chaînes qui ne semblent pas apporter grand-chose d'intéressant pour le public. Sans aller chercher très loin, on peut trouver une ou deux chaînes à l'audience qui ne dépasse pas les 1%, dont la grille est désolante de pauvreté. Je ne nommerai personne, mais vous voyez à peu près de qui je veux parler. Donc, renouvellement des autorisations d'émettre qui tombe politiquement à point nommé pour certains, car sans tourner autour du pot, les chaînes gratuites du groupe Bolloré, en tout cas C8 et CNews, semblent ne pas respecter l'esprit de leur concession, en tout cas pour certains députés et certains politiques. On ne va pas développer cela, vous avez bien compris ce qui est en jeu, qu'on l'accepte ou pas. Donc l'Assemblée nationale a lancé une commission d'enquête sur ce sujet. J'ai déjà évoqué ici les aléas de cette commission, plus politique qu'autre chose, avec des dérives qui montrent que pour certains députés, l'audiovisuel n'est pas leur point fort. Mais en s'intéressant à cela, ça fait du buzz. Cette commission d'enquête voulue par les députés de la France Insoumise intègre 30 députés de tous bords, avec pour président Quentin Bataillon, député Renaissance, autrement dit macroniste, et avec comme rapporteur Aurélien Saint-Toul, député LFI. Sans surprise, les divisions que l'on peut entendre dans l'hémicycle se retrouvent dans cette commission. Divisions et excès. On a souvenir de certaines questions posées qui étaient quand même assez hors sol. Sans surprise, au moment de remettre son rapport, président et rapporteur ont eu du mal à se mettre d'accord. Le député LFI ayant fait des propositions qui semblaient irréalistes ou trop politiques, dont par exemple l'interdiction pour une chaîne d'information de faire appel à des éditorialistes politiques. Suppression du modèle payant, ce qui semble un peu surprenant dans le sens où on sait que ce modèle est en fin de vie. Et puis, plus de dessins animés le matin, un cadeau fait aux plateformes. Sans oublier que ce député ne serait pas contre la simple suppression de C8 et CNews, décision qui, politiquement parlant, passerait vraiment très mal dans l'opinion. Par contre, certaines demandes de cette commission pourraient être retenues, comme le renforcement du pouvoir de sanction de l'ARCOM, qui deviendrait encore plus le gendarme de l'audiovisuel. Est aussi envisagée une forte augmentation des amendes réclamées en cas de non-respect des règles. Je parlais du député LFI, mais le président de la commission, donc le député macroniste, a lui aussi montré une grande méconnaissance des dossiers, en proposant par exemple de remplacer France Info Télé par France 24, la chaîne d'information internationale, j'allais dire en français, mais non, la chaîne qui émet en plusieurs langues. Alors, est-ce que toutes les propositions de cette commission seront retenues? Toutes ou en partie? Peu probable, car le gouvernement a lancé au même moment une réforme qui touche tout l'audiovisuel public avec la fusion qui regroupera radio et télévision. En fait, ce projet date d'avant la crise Covid. Il avait même été voté par le Sénat. Rien de plus facile donc pour la ministre de la Culture que de relancer la machine. À marche forcée, d'ici la fin de l'année, création d'une holding, une société qui chapeauterait toutes les sociétés concernées, et en 2026, fusion pure et simple. Si on peut comprendre cette idée de fusion, on sait que l'audiovisuel n'est plus vraiment divisé entre radio, télévision et écrit. Mais d'une part, les syndicats vont résister un maximum contre cette fusion. Eux qui craignent déjà qu'il y ait des réductions de budget et d'emploi au moment où la redevance est supprimée et remplacée par quelque chose qui n'est pas encore très clair. De plus, la crainte est que la radio soit mise sous domination de la télévision, alors que Radio France domine les audiences. Bon, le gouvernement, et pas seulement l'actuel, a l'habitude de passer outre au refus des syndicats. Mais il semble bien qu'on passera par la case grève, et une grève dure. Ah oui, j'allais oublier. Les chaînes privées ont appris que le gouvernement voulait aussi déplafonner les recettes publicitaires des deux groupes publics. Ils sont complètement dingues, s'agace un dirigeant de radio. C'est une ligne à ne pas dépasser. Un propos rapporté par Le Point. En tout cas, on peut s'attendre à des débats houleux à l'Assemblée nationale.
SatMag, l'actu des médias.
Radio. Radio. J. J. יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות, אבל מי לא שמע על קופצי הנדנדות, מרים להם כפיים, מלמדים אותם לנחות, מורמים על נס הדגל, גאוות כל האזור, רק לפעמים כשהם קופצים רחוק, הם שוכחים לחזור, בלילות קרים, עם פנס תחת לשמיכה הם מדברים והוא מגלה למה היא בשבילו כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה אצלנו בגן נפרדים בשמחה כי היום לא ארוך ונפגשים שוב מחר חוץ מאלה שפתאום
SatMag, l'actu des médias.
Vous savez peut-être, et j'en ai souvent parlé ici, qu'à la demande des députés France Insoumise, l'Assemblée nationale a organisé une commission d'enquête sur l'avenir de la TNT. Et cela alors que les autorisations d'émettre d'une quinzaine de chaînes arrivent à échéance. Le but du parti de M. Mélenchon était de tout faire pour que les chaînes C8 et CNews, contrôlées par Vincent Bolloré, perdent leurs fréquences. Il est ressorti de cette commission que malgré les différentes remontrances, mises en garde et amendes de la part de l'ARCOM, ces deux chaînes n'ont visiblement pas modifié leur ligne rédactionnelle. Un des meilleurs exemples est ce programme religieux, Enquête d'esprit, diffusé sur CNews le dimanche 25 février, où l'animateur de l'émission présente l'interruption volontaire de grossesse comme la première cause de mortalité au monde, devant le cancer et le tabac. Entre parenthèses, beaucoup ont pensé qu'en allant aussi loin dans ces critiques, finalement, ceux qui refusaient l'entrée de l'IVG dans la Constitution pour faire comprendre pourquoi cette mesure semble nécessaire. L'outrance ne paye pas toujours, elle paye même rarement. Mais donc ce programme, diffusé le 25 février et hasard du calendrier, quelques jours plus tard, la direction de la chaîne a été auditionnée par la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences TNT. Interrogé sur ce sujet, Serge Nedjar, directeur de la rédaction de CNews, a alors évoqué devant les élus une erreur inacceptable et justifie l'incident par un problème technique, tout en assurant qu'une enquête interne est en cours. Le rapporteur LFI de la commission, Aurélien Saint-Toul, raconte qu'il a fait alors usage de son pouvoir de contrôle et les 25 et 26 avril dernier, il s'est rendu à l'improviste dans les locaux de Canal+, et donc CNews, pour contrôler l'avancée de l'enquête interne. Et il a alors trouvé un mail interne où le service juridique de la chaîne indique sans l'ombre d'un doute que le programme en question est problématique, qu'il est inopportun de le diffuser compte tenu du fait que la direction de la chaîne est justement auditionnée par la commission d'enquête la semaine suivante. Donc la direction de CNews, contrairement à ce qu'elle affirmait, était au courant de ce dérapage, avant même sa diffusion. Donc selon le député, c'est la preuve que le groupe Bolloré se moque complètement des conséquences juridiques que peuvent entraîner la diffusion de certains programmes. Entre parenthèses, là je vais me faire l'avocat du diable. Pour une fois, je ne vais pas défendre CNews, à l'impossible nul n'est tenu, mais je vais trouver une explication qui tient la route. En tant que réalisateur radio, il m'est arrivé de faire ce type d'erreur. On enregistre un programme, on se rend compte que les propos qui sont dits ne sont pas diffusables pour différentes raisons, et on fait une coupe pour que cela ne soit donc pas diffusé. Et malgré ça, c'est le fichier non modifié qui est diffusé. Bah, c'est possible, hein, je vous le dis, je me fais l'avocat du diable, mais bon, quel diable. Quoi qu'il en soit, le député LFI va déposer une plainte contre Serge Nedjar, qui aurait menti lors de sa déposition, ce qui est grave et même passible de prison. Mais pour les députés, en fin de compte, le problème vient du fait que malgré les remontrances et amendes que l'ARCOM a infligées à la chaîne et au groupe, rien ne change. Donc il faut que l'autorité des médias ait plus de pouvoir de sanction, que les amendes soient plus fortes, avec possibilité même de retirer l'autorisation de diffuser pour une chaîne. Le député de LFI demande aussi que les décisions de l'ARCOM soient moins contestables en justice, notamment par le Conseil d'État. Et on se dit alors, bon, pourquoi pas, donnons plus de pouvoir aux gendarmes de l'audiovisuel. Même si, entre parenthèses, en démocratie, toute décision doit pouvoir être contestée. Oui, c'est un problème tout ça. Et là, on se rappelle que la plupart des députés LFI ont reproché à la direction de Radio France d'avoir mis à pied Guillaume Meurice suite à la répétition d'une mauvaise, très mauvaise blague. Et pourquoi Radio France a-t-elle mis à pied Guillaume Meurice ? Suite à une mise en garde reçue de l'ARCOM, en persévérant, le chroniqueur savait parfaitement que la réponse de la direction ne pouvait être qu'au minimum une exclusion provisoire ou même définitive, quelles que soient les décisions de justice à côté qui n'ont pas de rapport. Donc les députés LFI estiment d'un côté que l'ARCOM a été trop sévère et qu'il ne faut pas respecter sa décision. De l'autre, ces mêmes députés demandent que l'ARCOM ait plus de pouvoir et que cela ne soit pas contestable. Il n'y aurait pas une contradiction là ?
SatMag, l'actu des médias.
תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה ואין לי פלסטרים לעוד שריטה פתאום שזה הלך כל שלט ברחוב הזה מזכיר אותך הכאב הזה תופס אותי כל נסיעה בידיעה שהמרחק ממך הוא נגיעה וכמה זמן לקח לך להגיד הכל היית חוסכת ים זמן ים של אלכוהול היית עוצרת אותי מליפול היית עוצרת אותי מליפול אני הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל פתיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה ואין לי פלסטרים לעוד שריטה שעות לבד בחדר הזה אני הפכתי את הכאב הזה לעוד מחזה אני חייב להתאפס לחזור להיות כזה שמכין שרשראות מצלקום לחזה והכל טוב פשוט מאוד לבד אני לא זוכר איך לאהוב אני לא רוצה לדבר לא
של השיחה. היית נופלת לרצפה שלי מכל פתחה, נשארת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, רוצה להתעורר רק איתה. ואני פלסטרים לעוד שריטה, פלסטרים לעוד שריטה.
SatMag, l'actu des écrans.
Alors, on va jeter un coup d'œil le plus rapidement possible sur les audiences de la télévision la semaine dernière, donc pour la période du 6 au 12 mai. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Les variations les plus notables de la semaine sont à observer du côté des chaînes publiques généralistes ou de M6, qui, elles, accusent un fort retrait. TF1 est parfaitement stable, 18,2% de part d'audience. À noter la hausse de la matinale Bonjour, qui a progressé à 8,8% de part d'audience, plus 0,5 points. En prime time, la nouvelle série La Recrue permet à la soirée du lundi de progresser à 22,3% de part d'audience. Quand celle du dimanche, elle progresse grâce au film inédit Mort sur le Nil, 16,6% de part d'audience. France 2 profite de l'Eurovision et de l'arrivée de la flamme olympique. France 2 signe la plus forte hausse de la semaine, plus 0,5 points. France 2 est à 15,1% de part d'audience. Cette hausse cache pourtant de fortes variations, avec une journée en forte baisse, un accès en forte progression, porté notamment par les performances mercredi de l'allumage de la flamme olympique à Marseille, qui a réuni 3,4 millions de téléspectateurs entre 18h30 et 20h. Le concours de l'Eurovision de la chanson a mobilisé samedi 5,4 millions de téléspectateurs, en moyenne sur l'ensemble de la soirée, avec une part d'audience de 36,8%, c'est pas mal. Mais jeudi, le documentaire L'Europe face à la guerre a été regardé par seulement 586 000 personnes. 3,1% de part d'audience, c'est très faible. La chaîne était alors la 7e chaîne de la TNT ce soir-là. La plus forte baisse des chaînes cette semaine revient à France 3. 8,2% de part d'audience, moins 0,6 points. Baisse sur toutes les cases, 4 soirées en retrait. La soirée du mardi connaît un recul le plus important avec le documentaire Le mur de l'Atlantique, une forteresse au service de l'ennemi. Pas très regardé. Hein. M6, 7,6% de part d'audience, la chaîne perd 0,3 points. Toutes ces cases sont en retrait. Samedi, le lancement de la nouvelle saison NCIS cède 3 points par rapport à la finale Pékin Express, inhabituellement diffusée ce soir même la précédente semaine. La demi-finale retour de la Ligue Europa, Atlanta-Bergame contre Marseille, a été suivie jeudi par plus de 3 millions de téléspectateurs. Part d'audience, France 5, 3,1%, moins 0,3, avec un fort retrait de l'accès pénalisé par un C'est à vous en repos sur une partie de la semaine. Arte est légèrement en repli, elle aussi, 2,9% de part d'audience, moins 0,2 points. Dans ce que l'on appelle l'univers TNT, TMC reste leader, 3% de part d'audience, bien qu'en baisse de 0,1 point. Elle devance C8, qui perd de son côté 0,4 points, 2,7% de part d'audience. W9 complète le trio de tête à 2,2% de part d'audience. Si on regarde les résultats par groupe, groupe France Télévisions, toutes chaînes confondues, hors chaîne d'infos qui, je vous le rappelle, ne sont mesurées qu'une seule fois par mois, groupe France Télévisions est à 26,4%, en baisse de 0,4 points. Groupe TF1, 24,9% de part d'audience, moins 0,1 point. Groupe M6, 13,2% de part d'audience, audience parfaitement stable. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, pour la période du 6 au 12 mai, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifact. Fax.
SatMag, l'actu des médias. Radio J.
Dire que dit, Ashirim osinachto, Kulam chaverim ka, Achim achayot. תרקדי, לא תעופי בלי לחשוב, פה ושם תרגי קצת, תשמרי לך כוחות, אולי תברכי. אין לנו זמן, אולי תברכי. עוד מעט כאן, ואם תשמעי סביפות הדשא, חוטי השם רוקדת לך שם. את בטח רוקדת לך שם. תרקדי, אל תדאגי, זה הנוף שכלום לא יזיז לך, גם לא אש הקרבות. תרקדי, נתראה בקרוב, כולם מחכים לך, רק עוד כמה שבתות. אל תדאגי, ייקח לנו זמן. אל תדאגי, את עוד מעט כאן. את בטח חוקדת לך שם, את בטח חוקדת לך שם. לא 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 מקלט, אל תעצרי כי את לוחמת ומאיה.
רדיו ג'י,
את בטח חוקדת לך שם.
סט מג, לאקטו דה מדיה.
רדיו ג'י. Bon, maintenant, on va jeter un coup d'œil sur les programmes de la télévision à voir la semaine prochaine. Ce dimanche 19 mai à 21h10 sur France 2, je vous conseille de regarder Elvis, la biographie de Baz Luhrmann. C'est avec Austin Butler et Tom Hanks. De sa révélation en rockabilly en 1954 jusqu'à sa consécration, puis sa déchéance à Las Vegas, le destin de King, à travers sa relation toxique avec son agent et escroc notoire, le colonel Parker. Alors évidemment, donc c'est un film de Baz Luhrmann, donc avec la qualité et tous les excès de ce réalisateur, qui, je vous rappelle, avait fait Moulin Rouge.
Je souhaiterais être votre manager, monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler ?
Je suis prêt.
Demain, toute l'Amérique ne parlera que d'Elvis Presley.
Il y a des gens qui voulaient me mettre en prison à cause de ma façon de bouger.
Ta façon de chanter est un cadeau du bon Dieu, il n'y a donc rien de mal à ça.
C'est tragique, mais ça n'a rien à voir avec nous.
Ça a tout à voir avec nous. Un pasteur m'a dit un jour, quand les choses sont trop dangereuses à dire, chante.
Chante !
Bientôt j'aurai 40 ans. J'ai besoin de revenir à celui que je suis vraiment.
Et qui es-tu, Elvis ?
Toi et moi, nous sommes de la même graine.
Deux enfants étranges et solitaires en quête d'éternité.
Je vous conseille de regarder ce dimanche 19 mai à 21h10 sur France 2, Elvis, le film de Baz Luhrmann. Et si ce lundi 20 mai, à 21h25, on se faisait un petit kiff? 21h25, ça vous donne l'idée de la chaîne qui peut diffuser ce film. C'était MC. Quel film? A Star is Born. Le drame de Bradley Cooper, évidemment, avec Bradley Cooper et Lady Gaga, ainsi que Sam Elliott. Dois-je résumer ce film? Oui, bon, d'accord. Jason Maine, star de la country, noie son mal-être dans l'alcool jusqu'à ce qu'il rencontre Ali, une serveuse à la voix d'or, dont il devient le Pygmalion. C'est le troisième remake de ce film. Le premier, c'était en 1937. Le second, c'était avec Barbara Streisand. Là, Lady Gaga, qui prouve qu'elle est une excellente actrice, en même temps qu'elle est une fabuleuse chanteuse.
On va chanter ta chanson, d'accord?
Arrête de déconner!
Il suffit que tu me fasses confiance. Le talent, tout le monde en a. Ce que t'as, c'est toi et ce que t'as à dire au public. Parce que t'as une façon de le dire qui est miraculeuse. Je t'aime.
Pourquoi t'es jaloux comme ça?
Hé hey.
Quoi?
Rien, je voulais juste te regarder.
Donc je vous conseille de regarder ce lundi à 21h25 sur TMC, A Star is Born. Ce jeudi 23 mai à 21h10 sur France 3, je vous conseille de regarder le film de Sandrine Kimberlin de 2021, Une jeune fille qui va bien. C'est avec Rebecca Merder et André Marcon. Irène rêve d'intégrer le Conservatoire d'art dramatique. Solaire et passionnée, toujours prête à blaguer, la jeune femme, juive, vit pleinement son insouciance de son âge, ses premiers émois amoureux, malgré les lois antisémites, dans le Paris de 1942.
À 20 ans, rien ne se fera sans toi.
Faut juste faire une ou deux choses dans les règles.
Mais ça veut dire quoi, ça?
Que la mention juif devrait être apposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité.
Ça paraît fou.
Et moi, je ne suis pas mélancolique. Oh, regarde ça, on change rien.
Bonjour.
Bonjour.
Il va falloir aussi leur donner les vélos.
En tout cas, ils ont intérêt à tout nous rendre.
Comment tu peux accepter ça?
Faut jamais avoir peur. On décide de tout dans la vie.
Je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer.
Mais est-ce que t'es devenue folle? Est-ce que tu peux t'imaginer deux minutes l'inquiétude?
Amusez-vous. Jouez toujours comme si vous jouiez pour la dernière fois.
Au théâtre, à ma vie.
Rien ni personne ne prend le dessus sur la vie. Rien.
Je vous conseille de regarder ce jeudi à 21h10 sur France 3, le drame de Sandrine Kiberlin, Une jeune fille qui va bien. Oui, c'est vraiment un drame.
Satmag, l'actu des écrans.
Et bien voilà, ce Satmag Hebdo, c'est terminé. C'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine, toute l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Je vous laisse avec les programmes extraordinaires de votre radio préférée. On se retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même fréquence. Passez de bons moments. Bye bye.